Vous écoutez On lit pour vous.
Une crise en éducation malgré des dépenses records. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 15 janvier 2026 dans Le Devoir. Le hasard aura voulu que ce soit au lendemain de l'annonce du départ de la vie politique du premier ministre François Legault que l'Institut du Québec, IDQ, dévoile un rapport qui témoigne des investissements records effectués ces dernières années dans le réseau de l'éducation québécois. Ces effets sur la réussite des élèves se font toutefois toujours attendre, constate l'organisation. Elle craint d'ailleurs que le frein appliqué par Québec dans ses dépenses depuis l'an dernier se fasse au détriment de celles-ci. Si le réseau de l'éducation est en crise, ce n'est pas à cause d'un manque d'investissement de Québec, mais plutôt malgré une hausse record de 57% des dépenses de l'État destinées à ce secteur entre 2018 et 2024, évoque l'IDQ dans son rapport que Le Devoir a pu consulter avant sa publication. Une partie de cette croissance s'explique par l'augmentation de près de 10% du nombre d'élèves dans les écoles de la province en 6 ans. Elle est aussi le fruit d'une augmentation de 43% des dépenses par élève par l'intermédiaire du recrutement de nombreux enseignants et d'autres membres du personnel scolaire entre 2018 et 2024. Quand on a creusé les chiffres, on s'est rendu compte que c'est beaucoup de personnel qui est lié au service aux élèves qui a été recruté en grand nombre ces dernières années, évoque en entrevue la présidente-directrice générale de l'IDQ, Emma Braham. Le rapport fait ainsi état d'une croissance de 22% au net du nombre d'enseignants dans les écoles du Québec en 6 ans. Un bond qui a atteint 49% en ce qui concerne le personnel de soutien scolaire et professionnel. Les écoles du Québec comptent donc aujourd'hui plus de techniciens en éducation spécialisée, d'orthophonistes et de psychologues, entre autres, que lors de l'arrivée au pouvoir de François Legault en octobre 2018. Tous ces employés ont d'ailleurs vu leur salaire augmenter en 2024 au terme de rondes de négociations collectives avec Québec qui ont pesé lourd sur les finances de l'État. Des bienfaits qui se font attendre. Cependant, dans les écoles, les effets concrets de ces investissements sur la réussite scolaire se font attendre, constate l'Institut. Le taux de diplomation stagne depuis plusieurs années et des écarts marqués persistent entre les résultats compilés à cet égard dans les écoles privées et publiques, de même qu'entre les filles et les garçons, souligne Emma Braham. Je pense qu'il y a des questions assez sérieuses à poser. Si on investit autant en éducation et qu'on ne superforme pas sur certains indicateurs, il faut se demander si c'est correctement investi, si ce sont les bonnes priorités et si les interventions sont efficaces, estime Mme Braham. Le rapport de l'IDQ souligne ainsi l'importance que Québec s'attarde à compiler davantage de données qui lui permettraient de mesurer l'efficacité des investissements faits dans les écoles de la province et de déterminer si chaque dollar additionnel sert véritablement à la réussite des élèves. Car actuellement, il nous manque énormément d'informations pour faire un bon diagnostic à cet égard, affirme Mme Braham. Des gains menacés. Le rapport de l'IDQ évoque d'autre part l'hypothèse qu'il faudra patienter un certain temps avant de voir les investissements faits ces dernières années se traduire par une amélioration mesurable de la performance scolaire. Or, après avoir gonflé le budget de l'éducation ces dernières années, le gouvernement Legault a appliqué en 2024 un gel des dépenses dans ce portefeuille. Une hausse des dépenses limitée à 1,6% par année est d'ailleurs prévue cette année ainsi qu'en 2027. Un pourcentage qui est non seulement inférieur à l'inflation anticipée, mais aussi à l'augmentation annuelle prévue du salaire des enseignants, qui sera d'au moins 2,5% jusqu'en 2027. Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix ailleurs, parce que les salaires des enseignants, c'est vraiment peu compressible, souligne l'économiste principal et directeur adjoint de l'IDQ, Simon Savard. Il est donc faux de penser que Québec pourra ralentir les dépenses en éducation sans impacter le service aux élèves, complète Mme Braham. M. Savard souligne d'ailleurs qu'à cause du manque de données lui permettant de savoir quelles dépenses il doit prioriser dans le réseau de l'éducation, Québec risque de faire des compressions budgétaires dans les programmes qui fonctionnent ou qui apportent des retombées positives pour les écoles. Les contraintes imposées par le redressement budgétaire risquent ainsi d'affecter la capacité du Québec à atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'était fixés pour l'amélioration de l'éducation, conclut le rapport. C'était une crise en éducation malgré des dépenses records, un texte de Zachary Goudreau, paru le 15 janvier 2026 dans Le Devoir.
Notre menton, c'est inutile. Un texte de l'agence Science Presse paru le 26 février 2026 dans le magazine Québec Science. Pourquoi avons-nous un menton? Peut-être pour rien. Ça pourrait être un effet secondaire de l'évolution d'autres caractéristiques de notre crâne qui, elles, étaient bien plus utiles. L'Homo sapiens est en effet le seul primate à être doté d'un menton. Même nos cousins néandertaliens n'en avaient pas. Et bien que la biologie ait généralement tendance à considérer que si deux espèces cousines ont une grosse différence anatomique, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Cette vision utilitaire de l'évolution est incorrecte, commente dans le New Scientist l'anthropologue Noreen von Kremen-Taubadel de l'Université de Buffalo, auteur principal d'une étude parue dans la revue PLOS ONE. L'évolution qui aurait donné un avantage à cette espèce avec cette nouveauté est souvent plus désordonnée et moins dirigée que les gens s'y attendent. Son équipe a réalisé une analyse comparative de l'anatomie de 532 crânes d'humains et de 14 espèces de singes, centrées sur 46 différences anatomiques, dont 9 dans la région du menton. Le fait de mesurer ces différences leur a permis de dresser un arbre généalogique. Et en se basant sur la vitesse à laquelle la génétique permettrait à de tels traits d'évoluer, ils ont conclu que 6 des 9 traits de la région du menton ne semblent pas dépendants du processus évolutif. Le menton ne serait donc rien de plus que ce qu'il est, une extension osseuse de notre maxillaire inférieur. En biologie, on appelle ça une trompe. En anglais, spandrel. Un caractère dont l'apparition n'est pas liée directement à une adaptation. Mais il n'est qu'un effet secondaire de l'évolution. De quoi, alors, notre menton serait-il l'effet secondaire? En théorie, de plus qu'une chose. D'une part, lorsque nos ancêtres se sont mis à marcher sur deux pattes, leur crâne a progressivement été réaménagé pour faciliter cette nouvelle perspective sur le monde. D'autre part, des changements dans l'alimentation ont rendu moins nécessaire de larges dents à l'avant et de puissants muscles pour mâcher, faisant reculer au fil du temps les os du maxillaire supérieur, ce qui a rendu en comparaison le maxillaire inférieur plus proéminent, d'où le menton. C'était « Notre menton, c'est inutile », un texte de l'agence Science Presse paru le 26 février 2026 dans le magazine Québec Science. Texte Roujolle, Québec Science, 1047 mots, recherche Francine Thériault. Pourquoi doit-on s'inquiéter des cas de rougeole? Un texte d'Annie Labrec paru le 19 décembre 2025 dans le magazine Québec Science. Les bébés et les jeunes enfants sont les premières victimes de la rougeole. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette maladie hautement contagieuse. Qu'est-ce que la rougeole? C'est une maladie hautement contagieuse transmise par voie aérienne, toux, éternuement, gouttelettes de salive en suspension dans l'air, et causée par un virus de la famille des paramyxoviridae, Le taux de reproduction du virus, communément appelé le R0, est évalué entre 12 et 16. Cela signifie qu'une seule personne infectée en contamine plus d'une dizaine d'autres en moyenne. Une personne non vaccinée contre la rougeole ou n'ayant jamais été exposée au virus a 90% de risque d'attraper la maladie au contact d'une personne malade. Le virus peut aussi rester en suspension dans l'air pendant une période de 2 heures et demeurer virulent. Il est donc possible de contracter la rougeole simplement en entrant dans un endroit fréquenté par une personne malade, même si celle-ci n'y est plus. Quels sont les symptômes ? Les symptômes au début de la maladie ressemblent beaucoup à ceux d'autres maladies respiratoires, c'est-à-dire fièvre, nez qui coule, yeux rouges et toux. On peut donc attraper la rougeole et la transmettre à d'autres sans même savoir que c'est la rougeole qui nous rend malade. Au bout de 7 à 18 jours après le début de l'infection, une éruption cutanée caractéristique, rougeur, survient sur le visage et sur le reste du corps. Les éclosions de rougeole sont difficiles à maîtriser parce que les premiers symptômes passent souvent inaperçus alors que la transmission du virus est déjà en cours. C'est pourquoi les autorités sanitaires soulignent l'importance d'augmenter au maximum la couverture vaccinale afin de miser sur l'immunité collective. Lorsqu'un cas survient dans une population suffisamment protégée, la chaîne de transmission est interrompue. C'était « Notre menton, c'est inutile ». Un texte de l'agence Science Presse paru le 26 février 2026 dans le magazine Québec Science.
VPN au ralenti, visibilité des mots de passe et négocier son service sans fil. Un texte d'Alain Mekena, paru le 11 mars 2026 dans la presse. Luc Dumoulin, un lecteur, demande « Je paie pour utiliser le VPN Avast sur iPhone et iPad. J'ai cru percevoir un ralentissement dans certaines circonstances. Est-ce possible? » Payer pour un service supérieur ne défie pas les lois de la physique. Un ralentissement est non seulement possible, il est aussi inévitable. Imaginez votre connexion Internet comme un trajet en voiture. Sans VPN, vous roulez directement de votre maison à votre destination. Avec un VPN, vous forcez vos données à faire un détour par un tunnel sécurisé. Plus le serveur de protection se trouve loin, plus le voyage prendra du temps. Et comme pour un certain tunnel montréalais dont nous tairons le nom, plus vous êtes nombreux à l'emprunter en même temps, plus le serveur qui vous sert de relais VPN sera congestionné et lent. C'est pourquoi les services VPN par abonnement proposent généralement une liste de serveurs aux côtés desquels vous voyez le taux d'achalandage, parmi lesquels vous pouvez choisir manuellement. Cela dit, l'application ajoute une couche de chiffrement. Votre iPad doit coder chaque information à la sortie et la décoder au retour. Sur un réseau Wi-Fi instable, ce délai supplémentaire devient plus perceptible. Gardez votre protection active au café ou à l'aéroport pour protéger vos mots de passe. Mais de retour à la maison sur votre propre réseau, vous pouvez désactiver l'application sans crainte. Vous retrouverez ainsi toute la vitesse de vos appareils. Christiane Lalonde, une lectrice, demande « Est-ce dangereux de cliquer sur l'œil pour vérifier son mot de passe? » La réponse courte est non. Le danger n'est pas informatique, il est physique. Ce fameux petit œil à la fin de la case du mot de passe agit comme un interrupteur. Quand vous le touchez, votre appareil retire les petits points noirs et affiche les caractères dans l'invite de mot de passe. Votre connexion avec le site Web n'est pas moins robuste pour autant. La protection numérique reste exactement la même. Le seul véritable risque est humain, quoique minime. C'est le piratage visuel par-dessus l'épaule. C'est l'équivalent de taper votre NIP au guichet automatique avec un curieux collé dans votre dos. Dans un aéroport ou un café, dévoiler votre mot de passe complexe en plein jour offre un cadeau inespéré aux regards indiscrets. Dans le confort et la vie privée de votre maison, vous pouvez utiliser cette fonction sans la moindre hésitation, même si l'idéal est d'adopter un gestionnaire de mot de passe, qui s'occupera de tout ça à votre place. Charles Lalande, un lecteur, demande Mon fournisseur de services sans fil a augmenté mon forfait de 7 $ en janvier. Pour réduire ma facture, on m'a dit que la seule solution était un rabais de 10 $ applicable si j'autorise les paiements bancaires préautorisés. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Ai-je raison d'hésiter? C'est un nouveau cheval de bataille des entreprises de télécommunications. Pour éliminer les frais de transaction des cartes de crédit, elles veulent piger directement dans votre compte de banque. Si une erreur de facturation survient, l'argent s'envole de votre compte avant même votre lecture de la facture. Vous devrez ensuite vous battre pour obtenir un remboursement. L'entreprise détient vos fonds en otage durant la résolution du litige. Le hic, c'est que les erreurs de facturation sont un problème extrêmement courant dans les télécoms. Lorsqu'on paie avec une carte de crédit, la dynamique est inversée. En cas de surfacturation ou d'erreur, vous pouvez contester la transaction. Votre compte personnel reste intact et vos autres paiements ne bloqueront pas. Le rabais de 10 $ est très attrayant, sauf si le sacrifice de votre tranquillité d'esprit vous agace. Vous pouvez évidemment utiliser un compte bancaire distinct, sans découvert autorisé, pour y déposer uniquement la somme exacte. Sinon, vous pouvez toujours magasiner ailleurs. Le marché québécois est le plus compétitif au Canada pour les services sans fil. C'était VPN au ralenti, visibilité des mots de passe et négocier son service sans fil. Un texte d'Alain McKenna, paru le 11 mars 2026 dans la presse.
L'intelligence artificielle vue par les professeurs de l'USB. Un texte de Marie Vilgoki, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté. La Liberté a rencontré trois enseignants-chercheurs de l'Université de Saint-Boniface pour comprendre les défis auxquels doit faire face le monde universitaire dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. Pierre Minkalantadi, l'IA est un artefact qui peut faciliter la réflexion. Pour Pierre Minkalantadi, enseignant en littérature et en langue française à l'Université de Saint-Boniface, l'IA est un artefact qui peut faciliter la réflexion, mais précise qu'elle doit être admise comme une aide et non un moyen en soi. La problématique de l'innovation technologique a toujours été la même. Quand une nouvelle technologie se met en route, beaucoup adoptent une posture prophétique qui invite à croire que celle-ci va résoudre tous les problèmes du monde, souligne l'enseignant-chercheur, qui rappelle que la technologie s'insère dans des processus et des pratiques sociales déjà en cours. Selon lui, le défi principal de l'utilisation de l'IA dans le cadre universitaire réside dans le principe d'honnêteté intellectuelle et du plagiat. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut surtout poser les bonnes questions en termes de détournement de cette technologie, affirme-t-il. Ce n'est pas la technique qui définit les valeurs, mais l'humain, souligne l'enseignant qui précise que, si la pratique répond au niveau éthique, il n'y a rien de mal à l'utiliser. Ainsi, pour Pierre Minkalantadi, il faut adapter et mettre à jour les politiques universitaires existantes pour l'encadrer. Aujourd'hui, l'enseignant envisage d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de ses cours. Cette technologie peut servir à préciser au mieux la définition des objectifs du cours, par exemple. René Desjardins. Cette technologie modifie la hiérarchie, les professeurs deviennent apprenants. Il faut réfléchir aux effets de cette technologie et à ses enjeux éthiques, affirme René Desjardins, professeur agrégé à l'école de traduction de l'Université Saint-Boniface. Pour elle, l'utilisation de l'IA doit être judicieuse et transparente. Pour l'enseignante, le principal défi pour le corps professoral au niveau universitaire réside dans le fait qu'il n'existe pas de consigne générale quant à l'utilisation de l'IA. En effet, les politiques varient d'un établissement à l'autre et il existe aussi une variabilité d'un cours à l'autre. Cette géométrie variable est très difficile pour la communauté étudiante qui se perd et doit sans cesse s'adapter aux différentes consignes. René Desjardins observe une technologie qui avance à un rythme fulgurant. Ainsi, les professeurs se retrouvent à être des apprenants. En ce sens, l'IA modifie la hiérarchie dans la salle de classe, invite à l'humilité et engage à créer un apprentissage collaboratif avec les élèves. Je ne suis ni une techno-optimiste, ni une techno-déterministe, mais j'estime être techno-progressiste, affirme-t-elle, en précisant que la technologie doit être au service des humains et non l'inverse. L'IA ne doit pas être aux dépens de l'environnement, de notre bien-être ou du collectif. Par ailleurs, elle explique qu'il existe un double discours ambivalent sur l'investissement des universités dans l'intelligence artificielle. Les étudiants, qui sont très sensibles aux enjeux climatiques, sont témoins d'un discours incongru lorsqu'on leur parle de politique environnementale et de développement de l'IA, alors qu'on sait que cette technologie est extrêmement énergivore, constate René Desjardins. Pour elle, les administrations se doivent de réfléchir à leur prise de position à ce sujet. Frédéric Jubainville. L'IA, c'est comme le feu, il faut savoir le maîtriser. Frédéric Jubainville, enseignant en communication multimédia à l'Université Saint-Boniface, déclare utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de ses cours. Cela m'arrive dans les apprentissages de mise en page, par exemple, et je m'assure qu'il l'utilise comme un outil. Du côté de ses élèves, l'enseignant accepte l'utilisation de l'IA lorsqu'ils s'en servent pour bonifier leurs travaux, tant qu'ils sont capables de démontrer toutes les notions utilisées, précise-t-il. Cet outil est comme le feu. Il peut être destructeur, comme ravager une forêt, mais c'est aussi un outil qui peut être bien utilisé lorsqu'il est maîtrisé, rapporte l'enseignant. Mais une limite à son utilisation dans le cadre de l'université existe bel et bien. Au sein des cours de texte et de rédaction, l'IA peut être un élément néfaste, rapporte l'enseignant qui se souvient de certains élèves n'étant pas capables d'expliquer leurs travaux lorsqu'ils utilisaient l'IA. L'enseignant utilise une autre métaphore et compare ainsi l'IA à un marteau. Si on donne un marteau à un enfant, il faut faire attention qu'il ne l'utilise pas de manière dangereuse. Mais si on lui montre bien comment l'utiliser, il peut s'en servir pour construire quelque chose de bon. J'aimerais pouvoir travailler avec des collègues pour développer la meilleure manière d'intégrer l'IA aux enseignements, mais cette technologie se déplace tellement vite que c'est compliqué, affirme-t-il. Pour lui, l'enjeu réside aussi dans la capacité à maintenir une forme d'intégrité dans l'utilisation de l'IA et de comprendre l'outil avant de l'utiliser. En somme, c'est un très bon outil, mais on doit d'abord bien préparer la communauté étudiante avant de l'utiliser, souligne-t-il. C'était l'intelligence artificielle vue par les professeurs de l'USB, un texte de Marie Vilgoki, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté.
Le nez qui coule. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2026 dans La Presse. Une lectrice, Emma Bilodeau, a demandé « Pourquoi est-ce que notre nez coule quand il fait froid? » Parce qu'il y a moins d'humidité dans l'air froid que dans l'air chaud. L'air froid contient moins d'eau que l'air chaud, explique Alkis Togias, de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, NIAID, des États-Unis, l'un des seuls chercheurs à s'être penché sur cette question. Les muqueuses sécrètent du liquide pour garder une humidité suffisante à l'intérieur du nez. Les muqueuses nasales sont fragilisées si elles sont trop sèches, ce qui peut causer des saignements, des lésions, et de l'inflammation. Une partie de la population a des écoulements nasaux par temps froid qui sont plus problématiques, selon l'allergologue américain. Il souffre de rhinite non allergique à cause d'une hyperosmolarité. L'hyperosmolarité est une réaction exagérée d'osmose, un phénomène où des cellules ayant des salinités différentes entrent en relation pour équilibrer les concentrations en sel et autres molécules entre les cellules. Chez certaines personnes, les écoulements nasaux sont tellement abondants qu'ils vident les cellules nasales d'eau, dit le docteur Togias. Ça crée une concentration tellement grande en sel et en fer dans les cellules nasales que des mastocytes du système immunitaire sont activés. Ce sont les mastocytes qui sont responsables de la réaction immunitaire exagérée des allergies. Les mastocytes sont des molécules du système immunitaire qui relâchent d'autres molécules combattant les infections. Le docteur Togias, qui dirige la recherche sur la biologie des allergies au NIAID, a fait la seule étude sur cette rhinite non allergique liée au froid. Nous avons montré que les mastocytes impliqués sont les mêmes que dans les allergies, dit-il. Des solutions? Mais après ces travaux, menés alors qu'il était à l'Université Johns Hopkins, il a été embauché par le NIAID et n'a pas pu continuer. Nous n'avons pas pu répondre aux questions qui se posaient. Quelle proportion de la population est vulnérable à ces rhinites non allergiques liées au froid? Y a-t-il des médicaments qui peuvent les aider? Est-ce que le même phénomène est impliqué dans l'aggravation de l'asthme ou de l'obstruction pulmonaire chronique, MPOC, avec le froid? Si ces travaux étaient menés à bien, cela permettrait d'éviter les nez qui coulent trop abondamment lorsqu'on va jouer dehors l'hiver, en plus d'aider à atténuer les autres problèmes respiratoires liés au froid. Des tests préliminaires ont permis de constater qu'un bronchodilatateur utilisé pour traiter l'asthme et l'emphysème, l'ipratropium, pourrait aider les rhinites non allergiques liées au froid en prévenant l'apparition de l'hyperosmolarité. Mais il faudrait un essai clinique pour le prouver. Ça serait important dans la prise en charge de l'asthme. Il y a 25 ans, des chercheurs italiens avaient fait un essai pilote sur 28 personnes pour voir l'utilité de l'ipratropium contre la rhinite du skieur, le nom qu'ils avaient donné à la rhinite non allergique due au froid. Les résultats avaient été encourageants, mais leurs travaux s'étaient arrêtés là, faute de financement. Le docteur Togias estime qu'environ 10 % de la population, peut-être plus, est vulnérable à ce problème. En savoir plus. Source : Institut national de santé publique du Québec. 8,3 % proportion des Québécois de plus de 35 ans qui souffrent de la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC. Une proportion qui s'élève à 19,2 % chez les 65 ans et plus. C'était « Le nez qui coule », un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2026 dans La Presse.